Chers amis, c'est quand même étonnant. C'est étonnant. Toute la semaine, dans les journaux, à la télé, à la radio, on nous rabâche les oreilles avec le voile. Et voilà que j'ouvre la Bible pour aujourd'hui, ce dimanche, première lecture, Exode 34. Et de quoi me parle-t-on ? Du voile de Moïse. Mettez déjà un voile celui-là. Étonnant. Alors on peut y voir peut-être un petit coup de pouce de notre Seigneur pour dire un mot ici au culte ce matin sur le voile. Mais bien sûr, dans le contexte de la Bible. Alors donc Moïse, il met le voile. Parce que après sa rencontre avec Dieu sur le mont Sinaï, son visage rayonnait tellement que cela effrayait visiblement Aaron et tout le peuple d'Israël. Est-ce que Moïse est encore normal? Là-haut sur le Sinaï, on sait qu'il fait très chaud en été, et même pas froid de très longtemps. Est-ce que là-haut, il aurait peut-être eu une insolation? Alors Moïse a préféré se voiler, se cacher la face. Pour la petite histoire, Michel-Ange, vous le connaissez, le sculpteur, l'artiste, il a voulu sculpter Moïse dans le Sinaï. Alors consciencieusement, Michel-Ange a pris la Bible. Peut-être qu'il avait appris un peu d'hébreu, et il a lu le texte en hébreu, et il est tombé sur notre passage, Ésaïe 34, Moïse qui descend rayonnant du mont Sinaï. Et alors Michel-Ange, il a fait une faute de traduction. Le mot « rayonner » en hébreu peut aussi se traduire par « corne ». Alors Michel-Ange a cru que Moïse, en descendant du Sinaï, avait des cornes. Que des cornes lui avaient poussé sur le mont Sinaï. Alors aujourd'hui encore, je ne sais pas si Hubert l'a déjà affiché, aujourd'hui encore vous pouvez voir un dessin de Moïse d'après Michel-Ange avec des cornes. On peut aussi prendre la suivante. Là, c'est avec son copain Ramsès II. Vous savez, le pharaon de l'Exode, c'est la momie de Ramsès II que vous pouvez encore voir au musée du Caire, à côté de Moïse avec des cornes. Bien sûr, Moïse n'avait pas des cornes. Il rayonnait simplement parce qu'il avait rencontré, Dieu. Et pour Moïse, cette rencontre a éclairé toute sa vie d'une manière incroyable et forte. Tout devenait clair pour Moïse sur le Sinaï. Cette lumière l'avait éclairé, transformé, vivifié. Et celui qui est descendu du mont Sinaï, ce n'était plus le même homme. Et c'est cela qu'il rayonnait en descendant de la montagne. Alors pour des gens qui n'ont pas fait la même expérience, cela est difficile à comprendre. Je connais des gens qui vivaient dans l'indifférence totale de Dieu et un jour, ils ont rencontré Dieu. Ce miracle a eu lieu et leur vie en a été bouleversée. Je pense par exemple à Pascal, à Paris, sur le pont de l'Alma, il rencontre Dieu, sa vie est bouleversée. Et cela, l'entourage, souvent, ne peut pas le comprendre quand il voit ces personnes transformées. On prend souvent ces personnes-là pour des fous, pour des illuminés, pour des dingues, pour des gens qui sont les victimes des sectes. Ces gens ont aussi souvent un cœur si exubérant qu'il voudrait parler de Dieu à tout le monde. Mais comme les autres ne comprennent pas, ils sont choqués. Ils nous embêtent avec son Jésus toute la journée, celui-là. Et souvent, leur expérience est si forte que leur témoignage a l'air tellement démesuré, miraculeux, alors on se méfie. Alors on est obligé de leur dire, écoute, cache ton enthousiasme. Tu choques plus que tu n'attires. Mets un voile, mon frère. La situation de Moïse est sans doute de cet ordre. Mais Aaron et les autres ont pu comprendre Moïse parce qu'eux-mêmes, ils avaient rencontré Dieu aussi. Et ils avaient vu des miracles, traverser de la mer Rouge, les 10 plaies d'Égypte. Ils avaient vu tout cela. Alors pour eux, c'était plus acceptable et ils comprenaient. Et pourtant, ils étaient encore choqués d'une certaine manière. Alors je crois que quand on a vraiment rencontré Dieu, un changement s'opère dans la vie, dans notre vie. Et nous avons envie d'en parler, d'en témoigner et montrer qu'il y a quelque chose d'essentiel dans notre vie et qu'on voudrait le communiquer. Moi, je peux vous dire que j'ai une grande envie, toujours, tous les jours, à chaque instant, de communiquer ma foi, de communiquer quelque chose qui est essentiel à ma vie. Alors, bien sûr, je le réfrène parce que les gens ne veulent pas qu'on les agresse avec notre foi. Alors, je tempère et je n'en parle pas. Mais c'est peut-être pour mieux en parler plus tard. Alors, il faut cacher un petit peu sa foi. Et au fur et à mesure, on peut s'ouvrir et on peut témoigner plus. Alors, on peut communiquer aussi d'autres passions. Je connaissais un gars à Heure qui était désolé qu'il ne pouvait pas communiquer sa passion des timbres à ses enfants. Alors, aujourd'hui, on veut surtout afficher, communiquer sa religion. Les musulmans veulent absolument nous montrer à nous, chrétiens, qu'ils sont musulmans. Et qu'ils sont fiers d'être musulmans, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas assez bien accueillis. Et là, leur religion est une manière de s'afficher, de s'affirmer. Et c'est pour ça qu'il y a cette affaire du voile. Mais il y a aussi des catholiques qui aiment bien afficher la croix, et dire, voilà, moi je suis catholique. Et alors, bien sûr, les protestants, ils ne sont pas en reste. Je connais beaucoup de protestants qui sont fiers d'afficher leur croix huguenote. Moi, je suis protestant. Qu'est-ce que le Seigneur dit de tout cela? Eh bien, Jésus dit clairement qu'il ne faut pas afficher sa religion. Il le dit clairement. C'est ce que faisaient d'ailleurs les pharisiens, et cela déplaisait à Jésus. Et Jésus a dit textuellement, Matthieu 6, verset 1, « Gardez-vous de pratiquer votre religion devant les hommes pour attirer leur regard. » Et Jésus trouvait hypocrite que des pharisiens s'arrêtaient sur le trottoir et commençaient à prier en public pour montrer qu'ils étaient très religieux. Et Jésus leur disait, si vous voulez prier, allez dans votre chambre. Ce n'est pas la peine de s'afficher, ça ne s'affiche pas. Mais alors, par contre, ce que nous devons afficher d'après Jésus, ce n'est pas les signes extérieurs. Mais c'est notre foi, notre espérance et notre amour. Surtout l'amour, il faut l'afficher. Il y a cette recommandation, c'est à cela que l'on verra que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le seul signe visible et ostensible qu'il va nous falloir arborer, c'est l'amour fraternel. Ça, nous le pouvons et ça, nous le devons même. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Puis il a ajouté, vous êtes, maintenant que je vais partir, vous êtes la lumière du monde. Nous devons laisser briller devant les hommes la lumière que Jésus a allumée dans notre vie. Et cette lumière que nous devons laisser briller, eh bien, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la bonté, la compréhension, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, nous pouvons le faire, ça, nous devons le faire, de sorte que les autres se disent, mais celui-là, il a quelque chose que je n'ai pas. C'est une personne absolument extraordinaire. Il rayonne, ce gars-là. Il rayonne, il a quelque chose que je n'ai pas et que j'aimerais bien avoir. Et c'est là, alors, qu'on peut lui dire, eh bien, ce que j'ai, moi, et ce que tu n'as pas, c'est Jésus-Christ. J'ai la lumière de Jésus-Christ dans mon cœur. Et Jésus ajoute, quand vous allumez une lampe dans votre appartement, vous ne la mettez pas dans un carton et vous mettez un couvercle par-dessus. C'est pour éclairer la pièce. La lumière, elle est là pour éclairer. Eh bien, que votre lumière éclaire l'obscurité du monde. Le monde est bien sombre et il a besoin de votre lumière. Il y a un beau cantique dans notre cantique. Je suis la lumière du monde et je propose de le chanter.
Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Le monde est bien sombre, brillant, brillant. Sois dans mon cœur, comme dans mon cœur. Allez voir, c'est pas. Allez, on le refait. Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Avec moi, mon frère, ouvre-moi ton cœur. Le monde est bien sombre, brillant, brillant, bien. Moi dans mon
continue encore un petit peu. Alors pour en revenir et en finir avec le voile, pour Moïse c'était une protection. Pour une femme, un voile peut être une protection devant le regard des hommes. Dieu a créé la femme attirante pour l'homme, il l'a voulu comme ça, que les hommes soient attirés par la femme. Mais Dieu n'a pas dit que la femme devait se couvrir pour qu'elle ne soit plus attirante. Et on sait que le péché a entraîné une perte de confiance entre l'homme et la femme. Cette espèce de gêne, elle est le fruit du péché. Alors Dieu, dans la Bible, ne dit pas que la femme doit se couvrir, mais elle recommande à l'homme de ne pas convoiter et d'apprendre à se dominer et d'apprendre à respecter l'autre. Je pense que l'homme et la femme sont égaux, et je pense qu'ils doivent se respecter l'un l'autre et savoir aussi dominer leur passion. Je termine avec la montagne, et bien plus tard, alors c'est la deuxième lecture, Moïse rencontre Dieu sur une autre montagne, et il est bouleversé, transformé, rayonnement. Mais 13 siècles plus tard, eh bien, il y a de nouveau une haute montagne, c'est dans le nord d'Israël. Et là, il n'est plus seul, Moïse, et il se retrouve avec Élie. Élie est considéré comme le plus grand prophète, celui qui s'est battu pour Dieu contre les idoles, Baal, par exemple, et il a remporté la victoire, ce n'est pas facile. Dieu est le champion, Élie est le champion du Dieu d'Israël, le Dieu unique. Et donc, Moïse se retrouve là, sur la montagne avec Élie le prophète, mais surtout, surtout avec Jésus. Et ceux qui assistent à cette scène, ce sont Pierre, Jacques et Jean. Ils étaient allés sur la montagne pour prier. Et sur cette montagne, ils ont alors une révélation extraordinaire. Jésus n'avait pas seulement un visage rayonnant comme Moïse sur le Sinaï, mais Jésus était littéralement transfiguré. Toute sa personne rayonnait. Et cette expérience voulait dire ce que la voix alors dit du ciel, « Ceci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Moïse a reçu de Dieu les commandements, la loi. Eh bien, Jésus, il est l'accomplissement de la loi. Élie était le témoin du Dieu unique. Jésus, il est ce Dieu unique fait homme lui-même. Et Jésus dira, « Celui qui m'a vu » a vu le Père, parce que moi et mon Père, nous sommes un. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et alors la voix ajoute, et c'est comme ça que je vais terminer, la voix ajoute, écoutez-le, écoutez-le. Nous voulons faire confiance à Jésus, obéir à sa parole, la mettre en pratique. Quand nous le faisons, quelque chose de mystérieux se passe, que Jésus dit d'ailleurs, « Celui qui observe ma parole, nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. » En obéissant à la parole de Dieu, Dieu en personne vient vers nous, il vient en nous, en esprit et en vérité. Sa lumière et sa force se communiquent à notre vie et la remplissent. Et alors, celui qui fait cette expérience, eh bien, il aura beaucoup de peine à cacher la lumière et la force qu'il a désormais en lui. Amen.